Vous êtes-vous déjà posé cette question? De nos jours, est-ce que la tentation se produit de la même manière que dans le temps d'Adam et Ève? J'ai bien hâte d'entendre la réponse que Dieu va nous donner aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. Voici des questions qui, je suis certaine, vont vous intéresser au cours de cette émission. Pourquoi Dieu a-t-il permis que l'homme et la femme soient tentés? Pourquoi est-ce que Satan a approché la femme et non l'homme? Pouvons-nous ajouter nos propres enseignements à la parole de Dieu? Pouvons-nous retrancher des enseignements de la parole de Dieu? Quelle est la méthode de Satan pour nous tenter? Est-ce qu'il utilise la même méthode que dans le temps d'Adam et Ève pour nous tenter aujourd'hui? Y a-t-il une différence entre le christianisme et la religion? Approchons-nous de Dieu et demandons-lui de nous instruire concernant ces choses. Plus on apprend ce que la Bible enseigne, plus on apprend à connaître Dieu. Maintenant, le pasteur Régent Joly va nous donner les réponses qui se trouvent dans la Bible. Mais demandons à Dieu qu'il nous instruise lui-même par la bouche de son serviteur. Prions. Encore des points intéressants, des points qu'on veut connaître, Seigneur, ou on veut te connaître. On a besoin que tu nous instruises encore aujourd'hui. On s'attend à toi, mon Dieu, et parle par la bouche de ton serviteur. Parle à nos cœurs. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Aujourd'hui, chers amis, nous abordons le troisième chapitre du livre de la Genèse. Avant que nous nous y mettions, j'aimerais prendre quelques minutes pour revenir au chapitre 2, car il restait peu de temps pour commenter cette dernière partie. Nous avons examiné la création de la femme, une création indirecte, car elle fut tirée de l'homme, et cela démontre qu'elle fait partie de l'homme. Quelqu'un a exprimé le concept ainsi. La femme n'est pas un homme sous-développé, mais elle en est une variation. Pas une copie parfaitement identique à l'homme, mais semblable à lui malgré les différences. Cependant, au cours des années, ils doivent se ressembler de plus en plus, jusqu'à ce qu'ils soient l'un à l'autre ce qu'une mélodie est aux paroles d'une chanson. Des individus distincts, mais semblables l'un à l'autre dans l'amour. L'histoire de la création de la femme pour l'homme est une histoire belle et touchante. Nous avons vu au chapitre 2 que l'homme est à l'image de Dieu, l'adoration de Dieu par l'homme, la communion entre l'homme et Dieu, le service de l'homme pour Dieu, la loyauté de l'homme à Dieu, l'autorité que Dieu a donnée à l'homme et la vie sociale de l'homme donnée par Dieu et pour Dieu. C'est cela la richesse doctrinale du deuxième chapitre. Maintenant, nous abordons le chapitre 3, que certains qualifient de chapitre le plus important de la Bible. La plupart des commentateurs conservateurs concèdent cela. Il est même appelé par certains le pivot de la Bible. Si vous en doutez, lisez le chapitre 1 et 2, passez ensuite au chapitre 4 en sautant le troisième chapitre et lisez jusqu'au chapitre 11. Vous verrez qu'il manque quelque chose au récit, qu'il a dû se produire un événement important. Et cet événement important se trouve au chapitre 3. Par exemple, au chapitre 1 et 2, vous voyez l'homme dans un état d'innocence. Tout est parfait. Il y a une communion entre Dieu et l'homme. Mais aussitôt que vous lisez le chapitre 4, et il en est ainsi jusqu'au chapitre 11, vous y trouvez de la jalousie, de la colère, des meurtres, du mensonge, de la méchanceté, de la corruption, de la rébellion et des jugements. Vous vous demandez alors, d'où tout cela est sorti? Où est-ce que cela a commencé? Quelle est l'origine du péché? En fait, je ne pense pas qu'il a commencé au chapitre 3 de la Genèse, mais en ce qui concerne l'homme, c'est là que tout a commencé. Laissez-moi vous citer ce que quelqu'un d'autre a écrit au sujet de ce troisième chapitre de la Genèse. Je cite. C'est ici la source de nombreux fleuves de vérité divine. C'est ici que débute le terrible drame qui se déroule sur la terre depuis environ 6000 ans et qui n'est pas encore terminé. Dans ce chapitre, nous trouvons l'explication divine de l'état de déchéance et de ruine de la race humaine. Nous y découvrons les ruses de notre ennemi, le diable. Nous y voyons l'incapacité complète de l'homme à marcher dans la justice lorsque Dieu retient sa grâce divine. Nous y découvrons les effets spirituels du péché, l'homme qui essaie de se cacher de Dieu. Nous y observons l'attitude de Dieu envers les pécheurs coupables. Nous y observons la tendance de la nature humaine à cacher sa honte morale par ses propres méthodes. Dans ce chapitre, nous apprenons comment Dieu pourvoit gracieusement à notre besoin spirituel. Nous y voyons la première prophétie, la première d'une longue suite de prophéties qui seront faites à travers toute la Bible. Finalement, nous apprenons que l'homme ne peut venir à Dieu qu'au moyen d'un médiateur. Fin de la citation. Ce texte, cher ami, est formidable, et nous voulons l'examiner en profondeur. Prenons le temps, avec ces premiers chapitres, à cause de leur importance capitale. Dieu nous donne de nombreuses vérités profondes en peu de mots dans ces chapitres. Dans cette première section, nous découvrons le contexte dans lequel l'homme sera tenté. Commençons cette aventure. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Une question nous vient à l'esprit. Pourquoi Dieu a-t-il permis à Satan de tenter Adam et Ève? Si nous reculons au chapitre 1 et 2, nous voyons que l'homme est créé innocent. Mais il ne fut pas créé juste. Qu'est-ce que la justice? La justice, c'est l'état d'innocence qui est maintenu face à la tentation. Voyez-vous, la tentation est une occasion de vous affermir ou de vous détruire. L'un ou l'autre se produira. Le jardin d'Éden n'était pas une serre, et l'homme n'était pas un plant cultivé en serre à l'abri de la température. Le caractère se développe. Il peut se développer seulement en présence de la tentation. L'homme fut créé un être responsable, et il devait glorifier Dieu, le servir et lui obéir et se soumettre à son gouvernement divin. L'homme ne s'est pas créé lui-même, et je ne connais pas personne qui affirme une telle chose. Dieu l'a créé. Et ce n'est pas arbitrairement que Dieu a choisi la condition qu'il a imposée à l'homme. Il lui a dit, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Genèse, chapitre 2, verset 17. Ce n'est pas le seul arbre dans le jardin dont Adam pouvait manger le fruit. Dieu aurait été arbitraire si Adam était mort affamé, s'il lui avait interdit l'arbre et s'il lui avait aussi dit qu'il mourrait s'il en mangeait. Il y avait de nombreux arbres fruitiers dans le jardin. Donc, l'homme n'avait pas besoin du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, l'homme nous est présenté comme une créature responsable. Dans ce premier verset, le serpent nous est présenté. Il y a une question qui nous vient naturellement à l'esprit. D'où sort cette étrange créature? Comment s'est-il retrouvé dans le jardin? En autant que je peux en juger d'après la parole de Dieu, le serpent n'était pas une créature rampante. En fait, la Bible ne nous dit pas d'où il vient. Elle nous dit simplement qu'il était là. Il y a beaucoup de choses que la Bible ne nous dit pas. Le serpent est une créature que Satan pouvait utiliser, et il l'a fait. N'est-ce pas encore la méthode de Satan aujourd'hui? L'apôtre Paul a écrit dans le Nouveau Testament, et je cite, « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. L'Apocalypse nous en dit plus au sujet de Satan que tout autre livre. Et je cite, « Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Ce serpent n'était pas une bête rampante comme les serpents d'aujourd'hui. Ce n'est pas le portrait que la parole de Dieu nous fait de ce serpant. Apocalypse 20, verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Le serpent est une créature très habile. Le livre de la Genèse ne nous dit rien au sujet de son origine. Je pense que le 14e chapitre d'Isaïe et le 28e d'Ézéchiel répondent à nos questions sur l'origine du serpent et comment il est devenu la créature qu'il est. Maintenant, nous allons lire le verset 2. Mais je vous pose premièrement une question. Pourquoi Satan a-t-il approché la femme? Pourquoi n'a-t-il pas approché l'homme? Versets 2 et 3. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Maintenant, la femme fut créée après Adam. C'est lui qui a dû lui enseigner les instructions reçues de la part de Dieu. Dieu avait dit à Adam qu'il pouvait manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève a dû recevoir ses instructions de son mari. Donc, Satan a approché premièrement la femme. Maintenant, je pense que la femme fut créée avec de belles qualités et différente de celle de l'homme. La femme a souvent plus de compassion et elle est plus sensible et sympathique que l'homme. Donc, Ève devait être aussi plus ouverte à ce type de suggestion que l'homme. En fait, je pense qu'une femme a une nature plus curieuse que l'homme. Les femmes s'intéressent souvent aux sectes de toutes sortes, plus que les hommes, et elles les y attirent. En fait, plusieurs sectes furent fondées par des femmes. Satan savait ce qu'il faisait. Remarquez sa méthode très subtile alors qu'il approche la femme. Il lui demande une question qui met en doute la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » Il sème des doutes dans son esprit et attise sa curiosité. Il met en question l'amour, la bonté, la justice et la sainteté de Dieu. Ève répondit au serpent, « Nous pouvons manger de tous les arbres, mais de cet arbre, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez point. » C'est tout ce que Dieu a dit, mais Ève y ajoute quelque chose. « Et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Dieu n'a jamais dit, « Vous n'y toucherez point. » Versets 4 et 5. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Plutôt que « vous ne mourrez point », le véritable sens des paroles de Satan est celui-ci. Certainement, vous ne mourrez point. Pourquoi? Cela est simplement impossible. Satan met en doute l'amour et la bonté de Dieu. Si Dieu est bon, alors pourquoi vous impose-t-il cette restriction? Satan insinue que Dieu n'est pas juste, en contredisant Dieu. Vous ne mourrez point. Il remet la sainteté de Dieu en question en affirmant « Vous deviendrez vous-même Dieu, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Ève a ajouté à la parole de Dieu. Et plusieurs retranchent des éléments de la parole de Dieu. Et Dieu a donné un avertissement sévère au sujet de cela. Les sectes ajoutent à la parole de Dieu, et Dieu n'approuve pas cela davantage. Certains disent aujourd'hui que l'on est sauvé en obéissant à la loi. Ils argumentent que l'on est sauvé par la foi, mais qu'il faut aussi autre chose. Ils peuvent alors proposer toutes sortes de choses, telles que des œuvres, l'appartenance à une religion, des révélations spéciales, etc., etc. La Bible dit et déclare, Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Jean chapitre 6, verset 29. Voilà ce qui est important. Le serpent contredit Dieu avec beaucoup de subtilité. Il remplace la parole de Dieu par ses paroles. L'Épître aux Romains nous enseigne au sujet de l'obéissance de la foi. La foi produit l'obéissance, et l'incrédulité ou le manque de foi mène à la désobéissance. Il en va de même avec les doutes. Il en va toujours de même. Poursuivons notre lecture, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Remarquez la tentation de Satan. Elle est très intéressante. Elle fait appel à la chair. L'arbre était bon à manger. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Ce n'est pas là le point le plus important. Poursuivons. Agréable à la vue, c'est un appel à ses désirs et ses aspirations. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, ceci est un appel au côté religieux de l'homme. Satan employa une méthode semblable lorsqu'il tenta Jésus-Christ dans le désert. Nous pouvons lire ce récit dans trois évangiles, Matthieu chapitre 4, Marc chapitre 1 et Luc chapitre 4. Il a premièrement dit au Seigneur, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Cela était un appel à la chair, tout comme l'arbre était bon à manger. Ensuite, Satan lui a montré tous les royaumes du monde et les lui a offerts. C'était un appel à ses aspirations, à ses désirs, tout comme l'arbre était agréable à la vue. Et finalement, Satan dit à Jésus, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas du temple. » Un appel au côté religieux de l'homme, tout comme l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Je ne pense pas que Satan ait modifié sa technique. Il utilise la même tactique de nos jours, et s'il fait cela, c'est qu'elle fonctionne encore. Satan n'a pas eu besoin de modifier sa tactique. Nous tombons toujours dans le même vieux piège. C'est l'apôtre Jean qui a écrit, et je cite, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Première épître de Jean, chapitre 2, verset 16. La convoitise de la chair, l'arbre était bon à manger. La convoitise de la vue, l'arbre était agréable à la vue. L'orgueil de la vie, l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ces choses, mes amis, viennent du monde. pas de notre Père céleste. Jésus a affirmé que ses péchés viennent de notre cœur, du cœur de l'homme. C'est à cette convoitise profonde dans notre cœur que Satan fait appel. C'est la méthode de Satan pour atteindre l'humanité et l'entraîner à la désobéissance. Il a très bien réussi. Nos premiers parents se sont fait dire qu'ils connaîtraient le bien et le mal. Et que s'est-il produit? Voyez le résultat par vous-même. Lisons Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Que se passe-t-il ici? Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, c'est-à-dire leur conscience. Avant la chute, l'homme n'avait pas de conscience. Il était dans un état d'innocence, c'est-à-dire qu'il ignorait le mal. L'homme n'a pas créé ou inventé la conscience. C'est un accusateur qu'a chacun de nous en lui-même. Les psychologues affirment que nous avons un complexe de culpabilité. Un psychologue réputé de l'université, qui est un chrétien, m'a dit que le complexe de culpabilité fait autant partie de l'homme que son bras droit. L'homme ne peut se défaire de ses sentiments de culpabilité par des techniques psychologiques. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Les feuilles servirent de masques, mais elles ne couvrirent vraiment rien. Ils ont essayé de cacher leur péché sans le confesser. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Versets 8 et 9. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Remarquez que le seul arbre auquel le texte se réfère, par son nom, est le figuier. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas un pommier, chers amis. J'ignore quelle espèce d'arbre c'était, mais je suis certain que ce n'était pas un pommier. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier. Ils n'étaient pas prêts à se reconnaître comme étant des pécheurs perdus. Ils ne confessèrent pas leurs péchés. Terminons notre lecture pour aujourd'hui, les versets 10 à 13. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » Préparons-nous à la prochaine émission en lisant Genèse 3, verset 14, à Genèse chapitre 4, verset 5.
Merci, Régent. Je trouve ça vraiment intéressant de savoir que la tentation se produisait de la même façon dans le temps d'Adam et Ève que dans le temps de Jésus, puis de nos jours. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si je récapitule en gros, la tentation fait appel à la chair. Elle fait appel à nos désirs, à nos aspirations. Elle fait même appel à notre côté religieux. Et tous ont succombé à la tentation depuis Adam et Ève jusqu'à nous, sauf Jésus. Aussi, depuis Adam et Ève, les gens ont tous essayé de se mettre en contact avec Dieu par toutes sortes de moyens, et surtout par la religion, alors que le seul moyen de retourner à Dieu, c'est en naissant de nouveau. On fait la même chose qu'Adam et Ève. Plutôt que de confesser notre péché, on se couvre avec une ceinture de feuilles de figuier. c'est-à-dire qu'on essaie de pratiquer notre religion, des bonnes œuvres. On n'aime pas ça, s'avouer pécheur, surtout. Je me rappelle, il y a plusieurs années, quand on m'a dit que j'étais une pécheresse, que je devais m'avouer pécheresse, j'ai tout de suite répondu, « Je fais pas ça, moi, des péchés. » Mais tout de suite, ma conscience m'a accusée. Et l'Esprit de Dieu m'a convaincu que j'étais une pécheresse perdue. Mais Dieu s'est pas arrêté là. Il m'a aussi donné le moyen de m'en sortir. C'était pas par ma religion, mais en faisant connaître son moyen pour que je sois graciée, pardonnée entièrement. Il m'a fait savoir que Jésus, qui avait été tenté sans péché, lui, le Fils de Dieu, était venu sur cette terre en prenant la forme d'un pécheur, qu'il avait souffert aux mains des pécheurs, qu'il était mort sur la croix pour payer la dette de mes péchés, qu'il était ressuscité le troisième jour, qu'il était monté au ciel, et qu'il est maintenant assis à la droite de son Père. Il intercède pour moi, c'est mon avocat, fidèle et tendre. Je me suis repenti. J'ai reçu Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur. Je suis né de nouveau. Je suis devenu une enfant de Dieu, simplement par la foi en Jésus. Je n'ai pas adhéré à une nouvelle religion. Je suis devenu une enfant de Dieu, tout comme il est écrit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, verset 12, « À tous ceux qui ont reçu la parole, c'est-à-dire Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Aimerais-tu ça recevoir la parole? Aimerais-tu recevoir Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur? Aimerais-tu devenir un enfant de Dieu? Dieu offre la vie éternelle à tous ceux qui se reconnaissent pécheurs, qui se repentent, qui reçoivent Jésus comme leur sauveur, comme leur Seigneur. C'est tellement simple que beaucoup de gens passent à côté. On essaie tellement par la religion, on essaie tellement en faisant du bien, en donnant à toutes sortes d'œuvres de bienfaisance. Et ça donne pas le salut, ça donne pas la vie éternelle, ça donne pas le ciel pour l'éternité. Veux-tu être privé de la présence de Dieu pour l'éternité ou veux-tu être avec lui? Mais laisse-le te sauver, laisse-le te donner ce beau cadeau, cette vie éternelle. Crois au Seigneur Jésus. Crois en lui de tout ton cœur et c'est sûr que tu vas être sauvé. C'est lui qui l'a dit.
Chers auditeurs, nous aimerions vous inviter à poursuivre votre réflexion sur votre vie et à écouter l'émission télévisée « L'heure de la bonne nouvelle » qui est diffusée sur tout le réseau de télévision TQS tous les dimanches matins dès 8h. Le thème de la série est « Si tu connaissais le don de Dieu ». Vous aimeriez connaître ce don que Dieu vous offre? Son amour, son pardon, son salut, sa paix, sa compassion, sa bonté. Dieu vous offre ce qu'il y a de plus précieux, son Fils unique, le Seigneur Jésus. Oh, si vous connaissiez ce don merveilleux que Dieu vous offre et à quel point Dieu vous aime, votre façon de voir la vie serait changée. Votre vie en serait complètement transformée et vous pourriez recevoir son pardon et avoir l'assurance de vivre éternellement dans le ciel avec Dieu. C'est un rendez-vous à retenir l'heure de la bonne nouvelle tous les dimanches matins dès 8h sur tout le réseau TQS.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.